CFM Rhodes, cinquième épisode de nos rendez-vous avec l'association pour le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Avec moi cette semaine dans les studios, Leïla Harfoutni. Bonjour Leïla.
Bonjour David, très contente d'être là.
Eh bien écoutez, un plaisir partagé. On est ensemble donc pour évoquer aujourd'hui la question des commerces en particulier et notamment autour de ce fameux projet sur lequel le collectif est opposé, le projet du parc des expositions de Malan. Ce projet prévoit donc un parc des expositions, mais pas que, il y a une zone d'activité et des commerces aussi qui sont annoncés. Et bon, connaissant un peu le collectif, j'imagine que les commerces, vous n'êtes pas spécialement pour non plus.
Alors, les commerces, on est pour, mais on n'est pas pour qu'il y en ait là-bas, en fait. Donc, c'est ce que je vais expliquer. C'est que alors, cette zone, elle prévoit de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés pour répondre aux besoins du futur parc des expositions. C'est ce qu'ils exposent. Ce projet-là, donc c'est 7500 mètres carrés prévus de commerce. Alors, je reviens juste sur l'aspect terre agricole, parce que c'est vrai que ça nous touche 3,5 hectares de terre pour cet aspect commerce. Et c'est 5 stades de foot de la FIFA, pour donner un aperçu. Donc, c'est quand même beaucoup. Et après, la question des commerces, pour nous, elle n'est pas tant de faire un commerce, parce que on vit du commerce et on n'est pas du tout anti-commerce. Mais c'est que si on le fait là-bas, ça fragilise des zones qui ont un peu de mal à vivre. Et ça va à l'encontre, c'est ce que je vais expliquer, de ce qui existe déjà.
Premier point peut-être à aborder, ce que vous craignez, si ces commerces devaient voir le jour dans les toutes prochaines années, ça serait synonyme de déplacement supplémentaire.
Ah oui, et ça c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le CESER. Le CESER c'est le Conseil économique, social, environnement régional. Il dit dans une contribution du 18 février 2019 que l'étalement urbain induit une explosion des déplacements de proximité. Tout simplement, les gens doivent prendre la voiture pour aller là-bas et au lieu d'aller en bas de chez soi et d'aller à pied ou à vélo, ce qu'on est plutôt pour favoriser, on prend sa voiture et ça induit un déplacement, ça induit de la pollution et ça induit des coûts.
Donc des déplacements en plus, pour vous, c'est pas bon pour le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Autre point que vous avez évoqué en introduction, vous nous dites que ces commerces, ils nuiraient au commerce de proximité en bas de chez nous, quoi.
Eh bien oui, alors il y a le en bas de chez nous à Luc Laprimo, place de l'Étoile, il y a des commerces là-bas, des commerces qui sont un peu fragilisés. Tous les commerces sortent en plus de cette période un peu fragilisée, donc il faut y porter une attention particulière. Et puis aussi le centre-ville de Rhodes, puisqu'on est sur toute l'agglo, il y a des opérations qui sont développées qui s'appellent les opérations cœur de ville, justement pour que les gens consomment en bas de chez eux et qu'il n'y ait pas de local vacant dans les centres-villes, parce que ça fait triste. On est plutôt pour redynamiser les centres-villes, et donc cette opération là elle est importante. Mais du coup, si en contrepartie on construit d'autres commerces ailleurs, d'autres restaurants ailleurs, d'autres hôtels. Alors je vais prendre un exemple concret. Imaginons qu'on fait le salon du fromage. C'est super, il y a des gens qui viennent de partout. Si c'est à Rhodes Centre, ils vont venir, ils vont loger à Rhodes Centre, ils vont aller au restaurant en bas de l'hôtel, ils vont aller boire un coup après, ils vont aller acheter le petit souvenir à la boutique du coin, le journal le matin, le petit café, le croissant. Tout ça, ça met de la vie, ça met du dynamisme, etc. S'ils sont dans une zone loin, ils vont rester là-bas, dans cette zone-là, consommer tout autour. Du coup, c'est pas très intéressant ça pour le centre-ville, ni de Rhodes, ni de Luc Laprimo, je le répète, parce que le choix de la localisation est aussi loin de la place de l'Étoile. Et ça, cet impact négatif sur les commerces, il est mis en avant aussi par la première, quand il y a eu une modification du plan d'urbanisme, le PLUI, la CCU a dû donner un avis. Et son premier avis, qui est relaté dans l'hebdo du vendredi 28 mai, était négatif. Donc la CCI a justement mis en avant que la localisation de cet endroit, en fait, était éloigné donc de la centralité de la commune, place de l'Étoile, et qui n'allait certainement pas renforcer ce secteur géographique qui est déjà fragile. Je reprends les termes qui sont dits. Il y a autre chose que cette étude, elle met en avant, c'est que pour qu'une surface de vente de 7500 m² puisse avoir du dynamisme, il faudrait qu'elle ait un chiffre d'affaires de 20 à 22 millions d'euros. Or, elle mettait en avant que même avec les 1000 ménages supplémentaires qui s'installaient à la Primo, bah avec la construction qu'il y a eu, on a vu que c'est un territoire qui s'est agrandi, ces ménages-là, ces 1000 ménages, apporteraient 6 millions d'euros à peu près de dépenses de produits non alimentaires et autant en alimentaire, donc 6 millions d'euros, on est quand même loin des 20, 22 millions. Donc ça fait une zone qui ne va pas en fait profiter d'un grand non plus, d'une grande consommation.
D'accord. Bah après, on peut imaginer que si cette zone est créée, parc des expos, cette zone d'activité, cette zone commerciale, il y aura aussi des gens d'un petit peu plus loin de Luc la Primo qui arriveront pour y consommer et arriver à ces fameux 20 ou 22 millions d'euros.
Oui, alors c'est vrai, mais c'est dommage qu'ils n'aillent pas justement place de l'Étoile ou qu'ils ne viennent pas dans le centre de Rodez parce que ça viendrait comment ressourcer un petit peu nos commerces, quoi, hein, parce qu'on y tient à nos commerces de proximité. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'ils continuent d'exister.
Et après, de la même façon, j'ai envie de vous dire, bon, une zone commerciale sur le site de Malan, donc à la Primo, bah écoutez, pourquoi pas, ça fait déjà ce sera tout neuf, tout beau entre guillemets pour ceux à qui ça peut plaire, et puis ça peut faire de l'activité en plus d'une façon générale.
Alors oui et non, en Aveyron, hein, je vais prendre un chiffre qui est donné justement dans le diagnostic du plan d'urbanisme. Il y a un local pour 40 habitants. Alors, c'est une densité commerciale. Alors, la moyenne nationale, c'est un local pour 68 habitants. Pour les villes de notre strate, c'est un local pour 50. Et nous, on est à un local pour 40. Donc, c'est quand même beaucoup. Enfin, on va tous consommer, mais là, c'est beaucoup pour nous. Enfin, il y a un moment où il faut se poser la question de l'avenir aussi de ce qu'on crée. Et du coup, alors soit les Aveyronnais sont des super consommateurs et donc ils s'y vont, soit à un moment il va y avoir une limite et on va aller quelque part plutôt qu'un autre. Et effectivement, il y a l'attractivité du neuf, hein, qui fait que les gens iront certainement là-bas par curiosité pour essayer quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on voit nos restaurateurs qui font tout un effort pour les attirer dans le centre-ville, les cafetiers qui changent. Enfin, vraiment, il y a un effort dans ce sens-là pour attirer les gens. Et du coup, bon, il faut les encourager plutôt que de créer d'autres choses, quoi.
Alors pour vous, Leïla, et aussi bien sûr l'association, le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois, des zones commerciales, si j'ai bien compris, il y en a assez comme ça.
Et oui, et puis bon, il n'y a pas que pour moi, parce qu'il y a vraiment une orientation qui est celle alors je répète, hein, le Conseil économique et social environnemental régional, donc il y a une orientation qui est régionale qui est donnée, qui est qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec cette bétonisation. Et puis je vais le dire autrement, il y a la question des friches, parce que ces espaces-là, on les crée, mais après, il faut se demander ce qui existe. Et je vais reprendre, ce qu'elles deviennent, pardon. Je vais reprendre ce que dit le Césaire. Et je reprends ces termes. Inciter les collectivités à prioriser le recyclage des zones déjà artificialisées avant toute création de nouvelles zones. Interdire, hein, ils sont vraiment pour l'interdiction, vous voyez, c'est pas de l'agrandissement des zones si toutes les zones artificialisées ou les friches ne sont pas recyclées. Donc ils ont un principe qui est éviter, réduire, compenser. Et dans le éviter, ils disent que c'est l'aspect le plus important, ils le soulignent dans le texte et ils soulignent, ils forment les élus. Donc les nôtres, je pense, n'ont peut-être pas été formés à cette question-là. C'est bien dommage. Peut-être qu'il faut qu'on les aide. Donc on est là pour ça en tant que citoyen. Et dire aujourd'hui, il faut éviter, il ne faut pas continuer à créer, ne faut plus créer de friches commerciales. Alors c'est juste un petit truc un peu rigolo. On appelle ces zones-là qui deviennent on ne sait pas quoi. Il y a un terme un peu universitaire qu'on utilise, c'est objets urbains non identifiés. Et j'aime bien... Ça dit bien qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
C'est bien noté, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Leïla Harfoutni d'être venue dans ce rendez-vous hebdomadaire sur CFM du collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois.
Merci.
Je renvoie vers vos réseaux sociaux, page Facebook, site internet.
Tout à fait, page Facebook, Instagram, site internet avec une petite cagnotte parce qu'on récolte des fonds pour mener jusqu'au bout notre opposition et même sur le plan au tribunal. Du coup, voilà, tous ceux qui peuvent nous aider, même des petites sommes, c'est vraiment les bienvenus.
Oui, c'est un recours au tribunal administratif de Toulouse que vous menez contre le permis de construire
du parc des expositions.
Voilà. Et pour retrouver ces différents liens, on tape collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois.
Oui, et on peut nous retrouver sur le site du COSCONTAL, CCVAS.
Merci beaucoup Leïla et à la semaine prochaine.
Merci
pour un nouveau
vous.
Numéro avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. À suivre dans le match alors, le thème de la semaine, c'est les 9 vies du chat. Et puis avant, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin, Castelnau de Lévezou au temps de la Révolution française, c'est le thème d'une conférence demain à Castelnau de Peguérol, dans le sud du département. Antoine Beauvieux en stage sur CFM Rodez sera avec Marc Viassière, l'historien qui présentera cette conférence au prieuré du village demain soir. Mais d'abord, System of a Down pour la musique sur CFM Rodez.
CFM Rodez, le mag.
Bonjour monsieur Marc Vessière.
Bonjour.
On est ensemble car vous organisez le 12 juin une conférence intitulée Castelnau de Lévezou au temps de la Révolution française avec l'association des terrasses des Grands Causses à 20h30 au prieuré. Castelnau de Lévezou, c'est l'ancien nom de Castelnau de Peguérol ou les deux noms se disent ?
Eh bien, c'est son nom, effectivement. Il a pris le nom de Castelnau Peguérol. On a enlevé le à tort. Juste pendant quelques décennies, mais c'est son nom d'origine.
D'accord, donc les deux se disent couramment.
Oh ben à l'heure actuelle, on emploie Peguérol, mais bon, les documents d'archives très récents vous montreront son nom.
Et ça se situe où à peu près ?
Eh bien, la commune de Castelnau-Peguérol se situe dans l'arrondissement de Millau. C'est sur les flancs de la montagne de Lévezou, qui est un petit massif de 13 km de long. Et à ne pas confondre avec le plateau qui, lui, est au nord. Et c'est une commune, donc, qui, comme toutes les communes aveyronnaises, a été fondée au moment de la Révolution française, même si elles existaient dans les régions occitanes sous un autre nom. C'était les communautés d'habitants.
Et donc, le prieuré, c'est un lieu qui se situe directement à Castelnau de Peguérol ?
Oui, ils appellent le prieuré l'endroit où il y avait eu, effectivement... à côté de l'église Saint-Michel, un petit monastère bénédictin. Puis, les bénédictins ont dû disparaître assez vite et il y avait ensuite le presbytère paroissial.
Et donc, quel est le programme de cette conférence dont on parle ?
Le programme, c'est de discuter. J'avais réalisé un livre en 2016 que j'ai intitulé De Pégayrol à Bonaparte, la révolution à Castelnau-de-Lévézou. Donc, qui recouvre la période révolutionnaire de 1789 à 1800 et qui traite des événements qui se sont passés dans la commune de Castelnau, mais dans ses communes voisines qui formaient un ancien canton, canton primitif, c'est-à-dire qu'il y avait la commune de Castelmus, qui est aujourd'hui intégrée dans celle de Castelnau, et celle de Saint-Bozély, qui était un peu plus petite que celle qui existe aujourd'hui. Et c'est l'histoire, bien sûr, des formations territoriales, des changements de structures administratives, législatives, judiciaires, qui ont eu lieu d'après la loi du 22 décembre 1789, qui a donc été réalisée durant tout le courant de l'année 1790, et qui a été le grand changement, qui a été vraiment la révolution dans le royaume de France.
Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance aussi, au-delà de Castelnau-Pégayrol, en Aveyron, des faits marquants de la Révolution française ?
Oula, ça, c'est un trop vaste sujet, mais il y a eu des choses. Il y a eu en Aveyron, si je me souviens, durant la période, 72 guillotinés, ce qui a traumatisé les contemporains, on s'en doute, mais je ne vais pas vous parler de la révolution en Aveyron, c'est trop vaste, mais ça a été un bouleversement, comme dans tous les départements du Royaume de France, et puis ensuite la République française.
L'Aveyron avait quand même, s'était positionné rapidement dans le camp des révolutionnaires, ou pas du tout ?
C'est plus compliqué que ça, il y a eu des tenants, alors on dit révolutionnaires, il faut être prudent, il y a eu des tenants du changement, comme il y en a toujours. Et quand les tenants du changement attaquent certains sujets délicats, comme la religion, la vie particulière, les coutumes, il y a toujours de la réaction. Et nous avons été un département où il y a eu beaucoup de réactions, parce que quand les événements, à la fin de 1791, à cause de l'attaque de la religion, les événements ont tourné à la guerre civile, comme dans toute la France. Et notre département, et la région générale, le Massif central et autres, ont failli devenir des Vendées. Il n'y a pas eu le soutien populaire que l'on voit en Vendée, mais c'était très chaud. Très, très chaud.
Pour vous, du coup, à titre personnel, puisque vous m'avez parlé de 1789 notamment, 1791, pour vous, c'est quoi le moment le plus marquant de cette révolution française, si vous deviez faire un choix, même si j'imagine que c'est difficile ?
Non, on peut pas choisir. L'historien, enfin, essaye de comprendre. Il ne comprend pas tout. C'est du travail d'archives. Moi, je n'ai travaillé que sur archives, sur les délibérations communales et autres, de toutes les institutions de l'époque, les anciennes et les modernes, pendant la Révolution. Mais des fois, la documentation ne dit pas tout. Elle ne montre pas toujours l'état d'esprit des gens. On ne sait jamais tout. Donc l'historien doit essayer de comprendre, de présenter ce que l'on comprend, ce que la documentation permet de voir. Il faut être prudent et il faut ne surtout pas juger les gens ni les choses.
J'ai aussi vu que la commune de Castelnau-Pégayrol, à l'issue de la Révolution, a eu quand même son lot d'histoire et que notamment la commune de Castelnau-Pégayrol qu'on connaît aujourd'hui a été créée en 1834 par une ordonnance royale de Louis-Philippe en personne à l'époque.
Ça, c'est un autre problème. Les communes, donc, en France, mais chez nous, elles existaient, je vous dis, avec les communautés d'habitants, rien n'a changé. En 1790, les chefs-lieux seigneuriaux, qui rassemblent l'entité morale des habitants, les communautés, deviennent automatiquement communes. En Aveyron, il y a eu quelques constructions de nouvelles communes, il y en a eu même pas une vingtaine. J'ai fait un bouquin là-dessus que j'avais publié en 2005, mais passons. Et ces communes, en 1790-1800, il y en avait en Aveyron, il y en avait 615. Et quand le premier préfet de l'Aveyron est venu en 1800, quand il y a eu les changements administratifs, territoriaux, législatifs, etc., avec Napoléon Bonaparte, premier consul, on a beaucoup changé de choses et on a regroupé. Le préfet a pris un arrêté qui était anticonstitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'était pas légal. Il a fait du rassemblement automatique de communes qu'il a appelé mairie. Donc, pour vous parler du cas précis de Castelnau, le canton, le premier canton de Saint-Beauzély était formé de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Beauzély, Castelmus, Castelnau, trois communes. Et donc ces trois communes ont été regroupées en mairie, rien à voir avec le terme que l'on entend et le sens que l'on donne aujourd'hui à mairie. Et il avait ramené dans les 615 communes à 192 mairies. En gros, il a divisé les entités par trois.
Ah oui, gros changement.
Voilà, et bien il a fait une réforme territoriale, autoritaire et illégale, anticonstitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur a mis des années à s'en apercevoir, mais c'était très bien parce qu'il manquait du personnel politique. Nous étions dans un pays où il y avait très peu de gens lettrés et qui comprenaient le français. Et donc, c'était très bien. Et l'administration fiscale en était très contente parce que ça simplifiait pas mal de choses. Et cet état de fait a duré dans le département de l'Aveyron jusqu'en gros 1848, la fin de la monarchie de Juillet, parce que ça a demandé du temps de rétablir la légalité des communes dans leurs prérogatives naturelles. Et on en a profité, ça se passait en Conseil d'État naturellement, on en a profité pour refaire des communes, les restructurer, supprimer les problèmes d'enclave et refaire de nouveaux cantons. Et entre-temps, on avait entrepris de mettre en place le cadastre. Et donc, voilà, on a rétabli la légalité qu'avait supprimé le préfet de l'Aveyron, le premier préfet, M. François de Saint-Aurin.
Vous avez parlé d'écriture, vous avez une sacrée bibliographie, à ce que j'ai vu. À titre personnel, donc, vous avez fait beaucoup d'ouvrages sur l'histoire notamment de l'Aveyron, en Rouergue. D'où vous vient cette passion, on peut le dire, pour l'histoire de ce territoire ?
L'histoire m'avait toujours plu quand j'étais scolaire, hein, quand j'étais élève. Puis un jour, j'avais à peu près 25 ans, j'ai cherché à répondre à certaines questions. Et je me suis donc penché sur les archives. Donc mes sujets, c'est la montagne du Lévézou, c'est la situation ancienne, la possession de la terre, qui possède la terre, comment, etc., sous l'ancien régime, avant, etc. Les mutations administratives, etc. Bon, les sujets se sont posés sur des questions, simplement. Un jour, j'ai voulu répondre.
Je vous remercie, monsieur Marc Vessière, pour cette petite interview et le temps que vous nous avez accordé. Donc, on le rappelle, le 12 juin, vous aurez une conférence avec l'association des terrasses des Grands Causses qui organise ça avec vous à 20h30 au Prioré qui est donc dans Castelnau de Péguérol. Et donc, on va vous souhaiter une bonne conférence.
Eh bien, je vous en remercie, monsieur. Allez, au revoir.
Allez, presque sans transition. Chat alors, comme tous les vendredis, sur CFM Rhodes.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Dans Chat alors, nous parlons des chats. Les chats auraient 9 vies. Croyances, superstitions, métaphores ou proverbes, qu'en est-il ? Commençons par la légende hindouiste. Shiva aurait fait don de 9 vies aux chats. La légende raconte que Shiva aurait rencontré un chat dans un temple. Celui-ci se vanta de savoir compter jusqu'à l'infini. Shiva lui demanda alors de compter pour montrer ce talent. À 7, il commença à bâiller, et à 9, il s'endormit. Shiva le regarda dormir, entra en méditation et arriva à la conclusion qu'un sommeil si profond était sûrement proche de l'infini. C'est ainsi que Shiva aurait décidé d'accorder 9 vies au chat. Dans la légende égyptienne, le chat était un animal vénéré par les Égyptiens, représenté par Bastet, la déesse de l'amour. Un pouvoir mystique et divin était accordé au chat. Ils pouvaient se sortir des situations dangereuses qui pourraient leur coûter la vie. Les Égyptiens accordaient alors aux chats une immortalité en raison de leur faculté à survivre à des chutes de plusieurs mètres. Dans la religion égyptienne, le panthéon des dieux comptait 9 dieux principaux, le chiffre 9 étant considéré comme un symbole de perfection, ce qui en faisait aussi un chiffre porte-bonheur. Les Égyptiens croyaient en la réincarnation et étaient convaincus que les chats pouvaient se réincarner sous la forme humaine à l'issue de leurs 9 vies. Autre explication qui date de l'Inquisition, notamment en France. Les femmes possédant des chats, surtout noirs, étaient considérées comme des sorcières. Ces sorcières avaient la faculté de se transformer en chat, mais selon les dires, elles pouvaient le faire seulement 9 fois. Les chats étaient tués, mais ils revenaient sur les lieux. On imaginait alors qu'ils ne mouraient pas directement, qu'ils avaient plusieurs vies, donc 9. Ailleurs, dans d'autres pays, on entend parler de 7 vies. C'est le cas en Italie, en Grèce, au Brésil et en Espagne. En Turquie et dans les pays du Moyen-Orient, on dit que les chats ont 6 vies. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire « Le chat, légende, mythe et pouvoir magique » de Christian Doumergue. C'était Emeline d'un chat alors sur CFM Radio.
Merci Emeline. Et à la semaine prochaine, évidemment. C'est déjà la fin du Mag pour aujourd'hui. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.